Voilà, bonjour à tous et merci également pour votre invitation à la participation à cette journée et à ce petit bout de réflexion et de chemin que l'on va pouvoir faire ensemble. Je vais essayer, dans le cadre de cette présentation, de répondre quelque peu aux interrogations, aux inquiétudes qui m'ont été formulées en introduction par Sylvie. Et puis peut-être préciser quelques outils ou quelques procédures qui se rapportaient un peu au catalogue des horreurs que Antoine vient de présenter en partie. Alors la question qui m'a été posée était celle de l'influence européenne sur les politiques de l'éducation, de la formation, de l'emploi. C'est un vaste ensemble de politiques sociales. On va essayer de l'aborder en s'entendant bien d'abord sur les mots, en essayant de préciser les idées, les concepts et les procédures. Alors d'abord, si on parle d'influence européenne, c'est qu'on a le sentiment qu'on est en train de faire Europe, ou faire l'Europe ensemble, faire l'Europe de manière volontaire ou de manière contrainte, on va essayer de le discuter, mais il faut d'abord essayer de percevoir comment on fait l'Europe ou comment on peut analyser la manière dont on fait l'Europe. Il me semble, et la littérature nous invite à considérer trois manières de regarder cette façon de faire l'Europe. D'abord, faire l'Europe, c'est développer des machins à Bruxelles, comme disent les citoyens européens de tous les autres pays sauf en Belgique. Faire l'Europe, c'est développer des institutions européennes. Alors Antoine nous a présenté le Parlement, la BCE, la Commission, le Conseil, etc. C'est développer des institutions qui sont des structures et des institutions qui sont aussi des politiques, des manières de faire, ce sont aussi des institutions. Donc on peut regarder ce qui se passe en haut, considérer que l'Europe c'est quelque chose qui se passe en haut et s'intéresser à toutes ces mécaniques institutionnelles. L'autre façon de considérer faire l'Europe, c'est de voir ce qui se passe en bas, et je ne mets certainement pas de hiérarchie de valeur entre le haut et le bas, mais c'est de considérer que faire l'Europe, c'est changer nos politiques nationales. C'est appliquer des règlements, c'est être influencé par, c'est adapter nos dispositifs. Ou enfin, et c'est la perspective que je vais aborder ici, c'est un peu considérer que l'Europe ou l'européanisation, hein, comme on parle d'américanisation, de mondialisation, de globalisation, l'européanisation, c'est pas une voie à sens unique, c'est pas un objet unidirectionnel, on développe des trucs en haut ou on applique en bas, mais l'européanisation, c'est un processus d'échange continu, d'influence, d'ajustement, de nos stratégies visant à construire, influencer, réorienter la construction européenne d'une part, et nos stratégies, nos résistances, nos ambitions de réformer, transformer, ou de résister, ou de ne pas changer nos politiques nationales. Donc, voilà, il y a des auteurs français qui ont proposé une définition de l'européanisation, hein, avec des mots savants, en disant qu'il s'agit d'un ensemble de processus d'ajustement institutionnel, stratégique et normatif induit par la construction européenne. Alors, j'aime bien cette perspective, parce que ça veut dire que si on s'intéresse à la construction européenne ou l'influence européenne, eh bien, il faut envisager trois choses. Les idées, hein, les normes, c'est quel est le modèle, quel est le modèle de société, quelle est la vision de l'homme, quelle est notre vision des politiques. Les intérêts, les idées ne flottent jamais comme ça dans l'air. Les idées sont portées par des groupes, sont portées par des acteurs, reflètent des intérêts, des inégalités de rapport de force entre acteurs. Et enfin, les idées se concrétisent dans des institutions. Les politiques changent grâce à des procédures, grâce à des budgets, grâce à des instruments. Et c'est donc cette perspective que je vais essayer d'adopter aujourd'hui. Alors, je vais prendre un peu de décalage parfois par rapport au transparent, parce qu'Antoine a déjà présenté un certain nombre de choses, donc je ne voudrais pas faire le papy gâteux qui va répéter ce que le jeune a énoncé devant vous. Et en même temps, je vous invite à considérer que chacune des diapos est une fenêtre, une ouverture à la discussion. Donc, si je vais trop vite ou si vous voulez approfondir, questionner, eh bien, on peut revenir dessus. L'avantage de ces machines, c'est que ça va en avant et en arrière. Alors, la stratégie européenne pour l'emploi, qui est un peu le cadre qui va nous occuper et qui est le cadre normatif dans lequel on est censé inscrire nos politiques d'emploi, de formation, d'insertion professionnelle, notre droit du travail, s'est développée il y a près de 20 ans. En tout cas, c'est institutionnalisé il y a près de 20 ans à l'occasion du traité d'Amsterdam, où l'on a décidé, non pas de transférer une compétence nouvelle au niveau de l'Union européenne, non pas de transférer la compétence emploi, la compétence formation, etc. à l'Union européenne, mais de se mettre d'accord au niveau européen sur des orientations communes, des objectifs communs, laissant en théorie, et on verra que ça a changé au fil du temps, laissant en théorie et au départ aux États membres une certaine liberté dans la mise en œuvre de ces orientations. Alors pourquoi cette liberté dans la mise en œuvre, parce que, et on s'en rend peut-être pas compte de façon intuitive ou spontanée, parce que les politiques de l'emploi, comme les politiques de l'éducation, comme la sécu, etc., ont, je dirais, une composante historique, une composante culturelle très importante, qui font que dans les différents États membres, on n'applique pas les mêmes recettes de la même façon. On a des conceptions différentes de la relation d'emploi, de la flexibilité, du droit du travail. Toutes ces institutions sont inscrites dans une histoire. Et donc cette stratégie européenne pour l'emploi qui se développe en 1997, on va la regarder d'un double point de vue, celui de la construction de cette stratégie. On peut se mettre d'accord sur le fait de se coordonner sur des objectifs communs, mais après, il faudra voir comment on va batailler, comment on va négocier pour donner du contenu à cette stratégie. Est-ce qu'on va s'écraser devant les prescrits libéraux? Est-ce qu'on va tenter d'y mettre un peu de sauce social-démocrate? Ou est-ce qu'on va faire une vraie stratégie keynésienne au niveau européen? Quels vont être les rapports de force? Quelles vont être nos stratégies? Et puis, ensuite, l'influence, la mise en œuvre de ces orientations à l'euro. J'aime bien le mot domestique parce que ça renvoie un peu à la maison. Donc une fois qu'on s'est battu dans les forums européens, comment chez nous on met en œuvre ces politiques, ces orientations. Alors, domestique permet d'éviter de dire politique nationale, parce que quand on est en Belgique, on dit politique nationale en parlant d'emploi et de formation, ça n'a évidemment plus beaucoup de sens. Alors, donc premier regard, l'élaboration de la stratégie européenne pour l'emploi, d'où vient-on, etc. Alors l'histoire de la mise à l'agenda européen de la question de l'emploi, c'est une histoire très longue, avec beaucoup de cailloux et beaucoup d'embûches. Dès les premiers traités européens, le traité sur la CECA, on avait déjà quelques dispositions qui étaient particulièrement ambitieuses en matière sociale ou en matière d'emploi. Regardez les réalisations de la CECA et les objectifs de la CECA, les institutions de la CECA de l'époque et comparez-les à la politique sociale d'aujourd'hui, vous verrez le grand bond en arrière, comme ne disait pas l'autre, qui a constitué la politique sociale. Dans la CECA, on envisageait des primes à la mobilité des travailleurs. Aujourd'hui, la mobilité, c'est une sorte d'injonction, mais qui n'est pas soutenue financièrement. Dans la CECA, on envisageait la réduction du temps de travail lorsqu'on faisait des restructurations. Dans la CECA, on envisageait des créations d'emplois. Dans la CECA, on envisageait des constructions de logements publics, etc. Je ne veux pas idéaliser les origines vertueuses de la CECA, mais pour vous dire que dès le départ de la construction européenne, on avait des préoccupations sociales, des préoccupations en matière d'emploi, et j'oublie de citer évidemment la formation professionnelle. Mais on était dans un autre contexte, on était dans un contexte de plein emploi, en tout cas plein emploi masculin d'après-guerre, et lorsqu'on envisageait la question sociale, il s'agissait plus de considérer les impacts sociaux du progrès économique plutôt que de penser en termes de chômage de masse. Quoi qu'il en soit, l'histoire s'est faite et c'est surtout à partir du début des années 90 qu'est revenue de manière beaucoup plus prégnante la question de l'emploi à l'agenda européen. Pourquoi ? début des années 90, vous vous souviendrez sans doute que l'on a adopté le traité de Maastricht et ses exigences corrélatives en matière budgétaire. Et le début des années 90 est une période où l'on développe de façon critique un discours qui remet en cause une Europe qui est présentée comme au service du seul marché, comme un projet libéral. Et c'est au début des années 90 qu'on voit apparaître un discours sur le nécessaire équilibre entre dimension sociale et dimension économique, ou volonté de rééquilibrer l'Europe. Tu en parlais tout de suite avec la nouvelle histoire des droits sociaux européens. L'histoire de rééquilibrer la construction européenne, c'est une vieille rhétorique chez un certain nombre d'acteurs. Un grand projet en 1992-93 aurait pu être un point d'appui énorme pour la création d'une politique socio-économique européenne. C'était le livre blanc de Jacques Delors sur la croissance, compétitivité et l'emploi, où il avait essayé de faire la synthèse entre, d'une part, une ambition keynésienne de développement de grands travaux financés par un emprunt européen. C'est aussi un truc qui revient assez fréquemment dans le débat européen. Les dernières élections présidentielles françaises tournaient autour de cette thématique. Donc un projet keynésien d'une part, et un projet beaucoup plus libéral de modernisation, avec beaucoup de guillemets, du marché du travail. En gros, les ministres des Finances ont dit à Delors que son projet keynésien d'emprunt, il ne voulait pas en entendre parler. Donc on a gardé de ce livre blanc essentiellement l'idée que les marchés du travail européens étaient trop rigides et qu'il s'agissait de leur donner plus de flexibilité. Alors, après cet échec du livre blanc, s'est mise en place une coalition de causes de multiples acteurs voulant inscrire dans un traité l'idée qu'il faut prendre une initiative en matière d'emploi. Alors, cette coalition de causes était relativement large. On trouvait un certain nombre d'acteurs politiques et syndicaux scandinaves, en particulier la Suède, qui adhère en 1925 à l'Union européenne. En 1924, on a les élections européennes, donc on réfléchit dans les familles politiques à un programme pour les élections européennes, et dans la famille socialiste, on réfléchit au programme pour l'emploi dans le cadre de ces élections. La Confédération européenne des syndicats se mobilise. Dans la famille PPE, il y a quelques acteurs, et ils sont plutôt minoritaires, qui soutiennent cette idée de développer une initiative qui doit faire le contrepoids au pacte de stabilité qu'on s'apprête à approuver. Le pacte de stabilité, c'est l'institutionnalisation, c'est la concrétisation du traité de Maastricht, c'est la formalisation des critères de déficit et de dette publique qui ont été évoqués tout de suite. Et une fenêtre d'opportunité s'ouvre en 1996 à l'occasion d'une conférence intergouvernementale. On envisage de changer les traités européens parce qu'on voulait préparer l'élargissement et approfondir un certain nombre de compétences. Donc là, on discute de ce qu'on va mettre dans le traité. Donc ça, c'est le moment de mettre sur la table des propositions. Et une deuxième fenêtre d'opportunité qui s'ouvre avec une succession d'élections en 1997. Si vous avez quelques souvenir politique de cette période. 97, c'est la défaite de John Major en Angleterre, c'est Chirac qui dissout l'Assemblée nationale en France, puis un peu plus tard, ce seront les élections en Allemagne. Ce fait que par un hasard des calendriers, une concentration d'élections nationales en 1996, 97, 98, et que tous les résultats des élections dans un contexte de forte hausse du chômage, de mécontentements sociaux énormes, c'est Renaud Vilvoorde en Belgique, etc. Dans ce contexte-là, on voit déferler sur le Conseil européen ce qu'on a appelé la vague rose. C'est-à-dire que dans, à l'époque, 13 des 15 gouvernements européens, vous trouviez les sociodémocrates, socialistes, donc la gauche, le centre-gauche, le rouge, le rose, enfin, vous l'appelez ça comme vous voulez, mais ça change fondamentalement la donne politique. Et c'est ce petit événement, assez limité dans l'histoire politique européenne, va permettre l'adoption d'un chapitre emploi dans le traité d'Amsterdam. Alors, se mettre d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose en matière d'emploi, c'est intéressant. Ce fut l'objet d'une âpre bataille. Mais après, lorsqu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'on fait, sur le contenu de la stratégie européenne pour l'emploi, ben, c'est une autre paire de manches. Alors, si très facilement un Tony Blair et un Lionel Jospin étaient d'accord pour dire qu'on allait développer une stratégie pour l'emploi, lorsqu'il s'agissait de donner du contenu à cette stratégie pour l'emploi, vous devinez un petit peu que les deux acteurs que je viens de citer n'avaient pas, par exemple, pas tout à fait la même vision de l'emploi, de la politique sociale à développer en Europe. Alors, au cours des premières années, la stratégie européenne pour l'emploi s'est développée un petit peu sous le modèle de l'auberge espagnole. Hein, vous connaissez la formule. Chacun amène ce qu'il fait de mieux, ou chacun amène y apporte ce qu'il aime bien. Et dans les premières années, on a vécu avec un développement d'orientation relativement multiple d'orientation et de propositions. Alors, on trouvait des choses parfois carrément contradictoires. Hein. On avait d'un côté une injonction concilier vie professionnelle et vie privée, promouvoir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ce genre de choses. Et d'autre part, il était indiqué qu'il fallait déjà flexibiliser le droit du travail, multiplier les contrats atypiques et ce genre de choses. Donc, je vais passer un petit peu sur les origines de la stratégie européenne pour l'emploi. Lorsque les premiers conseillers, donc un groupe de travail qu'on appelle le comité emploi, lorsque les ministres de l'emploi se rassemblent et qu'il faut définir un programme commun, eh bien chacun vient avec ses influences, ou on se sert également d'un certain nombre de concepts ou d'outils qui ont déjà été développés par ailleurs. L'OCDE développait sa stratégie pour l'emploi depuis le début des années 90, et donc des notions comme l'activation, la dérégulation vont percoler dans la stratégie européenne pour l'emploi, mais également les Scandinaves, les partis sociaux-démocrates vont essayer d'influencer également cette stratégie européenne pour l'emploi. Alors la vague rose dont je vous ai parlé a été succédée par un ressac, et cette vague rose n'a pas duré très longtemps au Conseil, à partir de 99-2000. Vous avez un changement de majorité politique, et un peu tous les leaders que j'ai cités tout de suite vont laisser place à d'autres, et à la vague rose va succéder une vague bleue. Guterres va céder sa place à Barroso. En Italie, Berlusconi va arriver au pouvoir. En Belgique, Verhofstadt, mais c'est dans le cadre d'un gouvernement de coalition. Et progressivement, Aznar en Espagne, enfin, etc. Progressivement, autour de la table du Conseil, eh bien, les rapports de force politique vont quelque peu changer. Et progressivement, le message politique de la stratégie européenne pour l'emploi va être resserré et former un corpus qui va avoir un peu plus de cohérence et qui va s'articuler autour des priorités que Poupreau Antoine a citées. D'abord, première priorité, c'est diminuer le coût du travail. Hein. On s'inscrit dans ce paradigme de la compétitivité auquel tu as fait allusion. Deuxième grand principe qui irrigue vraiment les politiques de l'emploi, c'est le principe de l'activation. Ça, je suppose que ce n'est pas ici que je dois vous expliquer ce qu'on entend par activation. Troisième orientation, c'est tout ce qui concerne le capital humain et la flexibilité. C'est le développement de la formation, mais pas n'importe quelle formation ou pas dans n'importe quel objectif. J'y reviendrai dans un instant. Et évidemment, la flexibilité. J'aime bien l'expression que tu utilisais, la flexibilité des travailleurs, plutôt que parler de la flexibilité du travail. Cette stratégie européenne pour l'emploi poursuit son petit bonhomme de chemin pendant une dizaine d'années. Alors, à l'enthousiasme des débuts succède une certaine routinisation. On refait des rapports chaque année, on doit rendre compte de la manière dont on applique les lignes directrices et tout ça. Et donc, elle se coince un peu dans une certaine routine administrative. Et milieu des années 2000 arrive une nouvelle notion, un nouveau truc super sympa qui va mobiliser l'ensemble des acteurs et qu'on appelle la flexicurité. Alors j'imagine que Si vous travaillez depuis quelques années dans le secteur, on vous a baratiné avec cette histoire de flexicurité. Il y a plein de définitions administratives, politiques, scientifiques. J'aimais bien le commissaire Spidla qui parlait aux travailleurs comme un prophète au bord de la Seine et qui racontait des petites histoires pour faire passer l'idée de flexicurité, qui interrogeait le bon peuple en parlant en parabole. Il disait, voilà, lorsqu'un bateau coule, est-ce qu'il faut sauver le bateau ou il faut sauver les passagers? On était tous dans la salle, ah bah, sauver les passagers, hein, monsieur le commissaire. Il dit, vous avez tout compris, hein, le bateau c'est l'emploi, hein, et les passagers ce sont les travailleurs. Hein, donc si ce qu'il faut faire, c'est pas s'acharner à protéger les emplois, protéger les entreprises, etc. Ça c'est pas ça l'essentiel, ce sont les travailleurs. Hein, donc il faut donner des gilets de sauvetage aux travailleurs pour leur permettre de sauter dans un autre bateau. C'est ça la flexicurité, c'est la sécurité pour le passage d'un emploi à l'autre. Alors, j'aimerais prolonger sur la plaisanterie s'il n'y avait pas de nombreux bateaux qui coulaient en ce moment dans la Méditerranée, mais il était facile de répondre à Monsieur Spidla que son image, elle fonctionnait bien, hein, l'idée des gilets de sauvetage. Alors, le gilet de sauvetage, ça s'appelle bilan de compétences, ça s'appelle projet professionnel, ça s'appelle orientation, ça s'appelle formation, ça s'appelle parcours d'insertion, etc. Donc, son histoire, son analogie ou son image de bateau, c'est sympa, mais il doit prendre en compte deux choses. C'est que, un, ça marche à condition qu'il y ait un autre bateau à côté. S'il n'y a pas d'autre bateau, rester, même avec les meilleurs gilets de sauvetage du monde, rester dans une eau à 4 degrés, ça ne permet pas de survivre très longtemps. Mais l'image était bien celle-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attacher à maintenir nos protections de l'emploi, le contrat à durée indéterminée, les durées de préavis, etc. Ce qu'il faut, c'est faciliter les transitions, c'est passer de la sécurité de l'emploi à la sécurité dans l'emploi. Hein, la sécurité de passer d'un emploi à l'autre. Et pour ce faire, il faut permettre aux entreprises d'anticiper leurs coûts. Hein, les entreprises sont toujours dans l'anticipation. Et donc, nous dit le discours sur la flexicurité, une entreprise, avant d'embaucher, réfléchit au coût du licenciement. Et donc, comme l'homme politique que tu as cité tout de suite, l'argument est de dire, ben, si vous pouvez licencier plus facilement, vous embaucherez plus facilement. Et donc, la flexicurité, c'est assouplir le droit du travail, faciliter le licenciement, mais le compenser par ces sécurités individuelles, donc renoncer à une protection collective pour passer à une sécurité individuelle qui doit faciliter les parcours et les transitions. La flexicurité, ça a mobilisé beaucoup d'acteurs, c'était très sympa, c'était très motivant, mais il se fait que 2-3 ans après que cette idée brillante soit lancée dans le débat, est apparue la grande crise économique et financière, 5 millions d'emplois détruits en Europe, et dans ce contexte-là, il était un peu plus difficile de dire aux travailleurs hein, qui ont vu 5 millions de postes d'emploi disparaître, qu'il fallait assouplir encore, faciliter le licenciement pour leur permettre d'accéder plus facilement à un nouvel emploi. Et même les paradis de la flexicurité, hein, on est rue du Danemark, je ne sais pas si vous avez choisi le lieu par hasard ou intentionnellement, les paradis de la flexicurité s'avéraient remplis de quelques serpents. Dans les pays qui ont tellement bien flexibilisé le marché du travail, ben, dès que les premiers signes de la crise sont apparus, le taux de chômage a vraiment explosé. Vous savez que le taux de chômage de longue durée au Danemark a rattrapé le taux de chômage belge. Alors on pensait qu'on était les pires élèves européens en matière de taux de chômage. Eh bien, les meilleurs élèves ont réussi à rattraper la moyenne belge. Enfin, dernière étape dans l'élaboration du contenu de cette stratégie européenne pour l'emploi, c'est concomitamment à cette crise, c'est le développement de ce qu'on appelait la nouvelle gouvernance économique, avec tous les systèmes, les dispositifs de contrôle, de surveillance budgétaire, surveillance de la politique économique, dans lesquels les ministres des Finances et les ministres des Affaires économiques prennent clairement le dessus sur les formations qu'on dit sociales, les ministres de l'Emploi, etc. En effet, les institutions européennes peuvent mettre à l'amende désormais les pays européens, même s'ils ne l'ont pas encore fait, mais la menace est récurrente. Hein, on reçoit parfois soit des courriers d'avertissement très clairs, c'était le cas du courrier d'Olli Rehn, l'ancien commissaire à la Belgique il y a quelques années, ou encore très récemment, une pression forte pour que l'on remette un budget qui rentre dans le cadre budgétaire des limites des déficits et des trajectoires pour retrouver un équilibre budgétaire, mais aussi, et c'est là que la politique sociale y est subordonnée, mais aussi un budget qui tienne compte des recommandations européennes adressées aux États membres. Donc par ce biais-là, la politique sociale, la politique de l'emploi est vraiment inféodée aux orientations économiques. Alors dans le cadre de cette élaboration, cette construction de la politique de l'emploi, les États membres vont travailler à construire, et je vous ai dit, à construire en améliorant ou en résistant, en freinant, en accélérant la construction européenne. Alors, sur la version PowerPoint, ça bougeait ici, c'est assez figé. Donc, la réaction des acteurs nationaux, ce feedback national aux orientations européennes peut aller dans le sens de la convergence, on va dans le même sens de, on prolonge, on approfondit la création européenne, ou va dans le sens d'une divergence, d'une résistance. Et à différents moments de cette histoire de ces 20 dernières années de la construction européenne, eh bien, les acteurs belges ont tenté de défendre des positions, ont tenté d'amender dans différents sens. En 2010, il y a eu un projet de pacte de compétitivité qu'on appelait le pacte Mercosy, qui faisait clairement référence à une suppression des mécanismes d'indexation. Eh bien, le gouvernement belge a fait tout pour bloquer cette initiative européenne. Par contre, l'année suivante, c'est sous présidence belge qu'on a mis en œuvre de manière anticipée le semestre européen, c'est-à-dire cette nouvelle gouvernance économique. Au début des années 2000, la Belgique a été un des États membres qui a essayé de défendre l'idée de qualité de l'emploi en Europe. La stratégie européenne pour l'emploi était axée sur un objectif quantitatif d'augmenter le taux d'emploi, le nombre d'emplois. Je vous rappelle que le taux d'emploi, on le mesure à travers une enquête, qu'on appelle une enquête sur la force de travail, hein, qui consiste à interroger un échantillon de la population et de leur demander si, au cours de la semaine précédant l'enquête, les individus ont travaillé une heure. Et donc, est considéré comme à l'emploi toute personne qui a travaillé une heure, que ce soit en job étudiant, en ALE, peu importe. Vous êtes un travailleur si vous avez travaillé une heure sur la semaine. Donc, en réaction par rapport à un objectif quantitatif qui aurait pu se traduire dans des emplois de moindre qualité, ben, la Belgique, la Suède, la France et quelques autres États ont essayé de plaider pour la qualité de l'emploi. Ça veut dire que j'ai parlé trop longtemps ou Ah, les sandwichs. Okay. Deuxième volet, deuxième regard, l'influence de la stratégie européenne pour l'emploi, et que mes collègues de bureau ici en haut n'hésitent pas à me harceler si je suis trop long ou si je dois conclure. Donc deuxième regard, l'influence de la stratégie européenne pour l'emploi. Ce discours, ce cadre, comment produit-il des effets, par quel biais, par quel levier produit-il des effets en Belgique, ou dans les États membres. Alors, je vais assez vite, mais retenons qu'il y a deux moyens de considérer cette influence. D'abord, l'Europe produit clairement une pression adaptative, hein, dans ces domaines de politique sociale, politique de l'emploi, où en effet il n'y a pas trop d'obligations réglementaires, il y a une pression à l'adaptation. On met en évidence un décalage, hein, entre les réalités institutionnelles, le prescrit, l'idéal européen. Et cette pression adaptative, hein, on met en comparaison, on adresse des recommandations, on balance des indicateurs, enfin, etc. Cette pression adaptative peut conduire de types d'effets. D'abord, ça peut occasionner des nouvelles opportunités ou des nouvelles contraintes pour les acteurs. OK. Si c'est la Commission qui dit qu'il faut baisser le coût du travail, c'est que ça ne peut être que vrai. Si on a des indicateurs qui nous montrent qu'on a un handicap, etc., ben ça donne plus de force à certains acteurs qui, dans le jeu national, disent « Oh, ben nous, on plaide depuis des années pour la révision de la loi de 96, pour ceci, pour cela. » Ou ça peut aussi déforcer des acteurs qui disent « Il faut partager les gains de productivité, il faut que capital et travail profitent des fruits de la croissance, par exemple. » D'accord ? Donc, cette pression adaptative entraîne la remise en cause d'un certain nombre de veto, la remise en cause d'un certain nombre d'accords historiques, etc. Et donc, une modification des rapports de force. Ça, c'est la pensée en termes d'intérêt, en termes de rapports de force. L'autre effet produit par la politique européenne est un effet en termes de changement de mentalité, de changement de vision du monde, changement des représentations. Les processus européens sont aussi des processus qui associent, qui brassent un certain nombre d'acteurs nationaux dans des comités, dans des séminaires, dans des discussions, dans des échanges. Et au cours de ces échanges sont promus de nouvelles idées, de nouvelles représentations, un nouveau vocabulaire, de nouveaux mots. Et ces mots, ces processus produisent ces effets d'apprentissage, d'intériorisation de nouvelles normes, voire de nouvelles identités, et donc contribuent à convaincre, à changer la vision du monde. Et donc à la fois les changements d'opportunités, de rapports de force, d'agenda, et ce processus de socialisation, de conviction, conduit à ces changements domestiques. Alors, ces changements sont basés sur quel référentiel, sur quelle vision du monde, sur quelles idées ? Alors, je vais ici me centrer uniquement sur les politiques de formation, parce que je pense que c'est ce qui est au cœur de votre réflexion, mais je pense qu'on peut vraiment élargir la réflexion à des questions en matière de droit du travail, en matière d'indemnisation, du chômage, de sécurité sociale, en matière de coût du travail, etc. Mais voilà, en matière de formation, on a une multitude, une multiplicité d'objectifs et de processus européens. Mais si on essaye d'en analyser un peu le fondement, on voit quelques priorités. Et surtout, il faut essayer de voir ce qui ne s'y trouve pas. Et ce qui est important dans l'analyse des politiques européennes, c'est de voir tout ce qui est en creux. L'Union européenne place un projecteur sur un certain nombre de priorités, et donc met en lumière un certain nombre d'idées, d'objectifs, mais il faut toujours se dire qu'est-ce qui est derrière le rideau, qu'est-ce qui n'est plus mis en lumière par ce processus d'européanisation. Donc d'abord, la formation est présentée comme un élément au service d'une augmentation de la participation la participation au marché du travail, donc un soutien à la croissance du taux d'emploi et l'inscription dans un processus de mobilité assez généralisé, et aussi un élément qui est extrêmement important, et on va voir à travers quels outils ça se concrétise, c'est l'idée qu'il faut adapter l'offre éducative, je dis bien offre, aux besoins du marché. Alors, si j'ai une lecture à vous recommander, peut-être outre un ouvrage sur l'histoire de la stratégie européenne pour l'emploi, il y a un bouquin d'Isabelle Bruno et quelques collègues qui s'appelle « Éducation et néolibéralisme en Europe » ou quelque chose du genre, qui date de 2010 et qui est vraiment passionnant, dans lequel donc, Isabelle Bruno nous dit « Augmenter le taux d'emploi et améliorer l'employabilité exige de doter chaque individu des moyens de s'adapter aux mutations accélérées de la structure et de la nature des emplois. » Donc, La formation, c'est une adaptation à la structure industrielle, aux compétences, aux besoins d'économie, mais aussi à la nature des emplois. Et la nature des emplois, c'est la nature flexible, la nature limitée dans le temps des emplois. Alors, ce processus de stratégie européenne pour l'emploi consiste, Arnaud l'a dit, en un certain nombre de recommandations qui sont adressées à la Belgique. Ce sont les bulletins, les coups de marteau, les injonctions qui sont mentionnées. Et en matière d'éducation, de formation, au cours du processus, de manière récurrente, la Belgique reçoit une recommandation qui touche à la formation professionnelle. Alors, dans ces recommandations, vous ne lirez jamais, alors là je vais voir ce qu'il y a dans l'ombre, vous ne lirez jamais que l'Union européenne incite à un développement d'éducation permanente, incite à au développement d'une réflexion, la formation, une réflexion critique des citoyens, une éducation à la citoyenneté, ce genre de choses. La vision qui est promue à travers les recommandations, à travers le discours européen, est une vision très adaptative de la formation, hein, donc c'est une formation qui a une visée incitative, une visée d'insertion dans l'emploi. Donc il s'agit de former en particulier les plus de 45 ans, il s'agit de coller la stratégie de formation à la stratégie de flexibilité, c'est-à-dire la stratégie de flexibilisation du marché du travail, il s'agit de mobiliser la formation comme outil d'activation, il s'agit d'utiliser la formation pour répondre aux besoins, aux pénuries de main-d'œuvre, à l'inadéquation des compétences. Je vois le chronomètre qui arrive pour vous indiquer, alors, et ce sera mon point de conclusion, pour vous indiquer les quelques points de tension ou quelques éléments qui me semblent être des éléments qui caractérisent les réformes récentes des politiques de la formation et qui s'inscrivent dans ce paradigme européen. On sent une volonté politique d'augmenter la formation des salariés dans les entreprises pour ces besoins d'adaptation, mais qui se heurte à l'impossibilité de contraindre vraiment les employeurs à dépenser suffisamment en matière de formation. Je rappelle que dans les années 90, dans le cadre d'accords interprofessionnels, il y avait un objectif de 1,9% de la masse salariale qui devait être consacrée à la formation. On n'y arrive jamais. On arrive à augmenter l'indicateur en changeant le mode de calcul, mais fondamentalement, on ne voit pas d'amélioration des dépenses en matière de formation. Deuxième moyen d'augmenter la formation et de l'offre de travail, c'est de considérer la formation comme instrument d'activation. Ça, je suppose que vous le connaissez, vous le vivez dans votre quotidien. Deuxième trend des réformes successives des politiques d'activation, c'est ce qu'on appelle cette visée adéquationniste. Il faut adapter la formation pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre ou répondre aux besoins du marché, comme on dit, comme si le marché avait des besoins. Quand on parle de marché du travail, on dit « Ah oui, en effet, il y a des besoins du marché du travail. » Mais quand on parle du marché de la banane, il n'y a personne qui imagine que le marché puisse avoir un besoin. Deuxième tendance dans cette perspective adéquationniste, c'est l'idée d'anticiper et d'être dans l'adaptation des contenus. Et ça se fait, troisième ligne, me semble-t-il, au prix d'une érosion des droits culturels des travailleurs. Et si l'on a développé toutes sortes de dispositifs ou de systèmes de formation high-tech qui sont très bien et très, très performants, on a aussi érodé le congé éducation payé, on a aussi mis sous pression un certain nombre de formations en les plaçant sous un monitoring d'indicateurs en termes, par exemple, d'accès à l'emploi, etc. Troisième tendance, c'est la nécessité de placer la formation dans une perspective de transparence. Hein, ce que les économistes nous apprennent en matière de recrutement, c'est que il y a une inégalité d'information entre l'employeur et le travailleur sur les compétences réelles d'un individu. Hein, et donc l'employeur, pour prendre sa décision de recrutement, il a besoin d'avoir le plus d'informations possible. Alors, le travailleur peut présenter un CV, peut dire ce qu'il sait faire, c'est jamais qu'une information subjective. Et donc, pour avoir une vraie mise en concurrence des individus sur le marché du travail, eh bien, il faut rendre transparent le plus possible, tant que faire se peut, les compétences des individus et d'où toutes les initiatives en matière d'équivalence, de transparence, de mise à l'échelle, etc. Si vous avez un type qui vient avec un diplôme d'une école professionnelle d'Indre-et-Loire, que vaut ce diplôme? C'est un papier, l'employeur ne peut pas comprendre, ne peut pas savoir ce qui se cache derrière ce diplôme, d'où toute la stratégie de validation, d'équivalence, etc. Et enfin, in fine, le dernier élément, c'est la réduction des coûts de formation, je parle là pour les entreprises, et les coûts de formation ou la réduction des coûts par la formation. On sait qu'un certain nombre de dispositifs, je pense au PFI qui a été allongé, ou des dispositifs comme l'échec formation, construction sont parfois des effets d'aubaine dont on lit même dans le plan national de réforme belge que même s'il y a effet d'aubaine, l'objectif reste ultime, reste l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Donc c'est à travers des aides à la formation qu'on participe à une stratégie de réduction des coûts. Néanmoins, je ne voudrais pas terminer en présentant les choses de manière univoque, hein, de façon un peu top-down ou toboggan. Il y a des orientations européennes et tous les changements ne font que découler, ne font que qu'appliquer ces idées, ces prescrits. Il y a également dans le champ des politiques de formation un certain nombre de résistances. Résistance, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans la rue avec des drapeaux, mais c'est des idées, des paradigmes concurrents qui restent partagés par un certain nombre d'acteurs et qui font qu'in fine, les politiques sont parfois une sorte de lasagne, de juxtaposition de dispositifs qui ont parfois des inscriptions cognitives qui sont très différentes. Ainsi, les logiques adaptatives dans le champ de la formation, la mise en concurrence, etc., vont de pair avec une institutionnalisation, par exemple, du champ de l'insertion professionnelle qui, ou à le niveau Bruxelles, est assez exceptionnel par rapport à d'autres pays européens. On voit très peu de pays où on a un champ d'institutionnalisation qui est plus ou moins aussi stable qu'en Belgique. Le maintien des monopoles publics reste un élément important et est ancré, je pense, dans une certaine culture politique en Belgique. Hein. Même si on parle beaucoup d'opérateurs privés, etc., ils restent, marginaux en termes quantitatifs, par exemple dans l'ampleur de l'accompagnement des chômeurs, même s'il ne faut pas négliger l'influence et l'importance de ce phénomène, ou la faiblesse de l'effort des entreprises en faveur de la formation continue, malgré le discours européen. Donc le discours européen, ce n'est pas parce qu'il y a un discours qui est nécessairement un ensemble de changements qui correspondent tous au sens de ce discours. Voilà, je vais juste garder la première phrase de ma conclusion. Paul Valéry disait que toute politique implique quelque idée de l'homme. À nous de voir si l'idée de l'homme que nous promouvons correspond à cet idéal européen et à faire de l'avenir ce qu'on voudra en faire aujourd'hui. Je vous remercie.